Donc, bienvenue tout le monde. Donc, je vais ce soir vous parler des points importants et de base et fondamentaux pour être chef d'escouade. Alors, sur le forum, il y a en fait dans les parties tuto, il y a un guide du chef d'escouade que je vous recommande de relire. Ensuite, je vais grosso modo suivre la structure de ce guide. Comme ça, vous serez pas perdu quand vous le relirez. Disons que en avant-propos, c'est le truc du chef d'escouade, ce que je disais tout à l'heure à Exo, c'est il est là pour faire jouer ses joueurs, pour leur faire passer une bonne soirée. Pour moi, en tant que chef d'escouade, c'est vraiment ça mon impératif fondamental. Et le truc, en fait, tout le truc du chef d'escouade, c'est d'arriver à le faire en étant ferme et en faisant preuve d'autorité, tout en restant diplomate, respectueux, sans perdre son sang-froid, etc. Alors, cette histoire d'autorité, de faire en sorte que les gens suivent bien tout ce qu'on raconte, c'est le fondement du jeu LSD, le jeu en groupe. On a travaillé pendant 2 ans, ces 2 dernières années, sur Planet Side 2, tous les officiers, l'officier précédent, de la section ont beaucoup discuté, beaucoup travaillé sur les meilleures techniques, la meilleure façon de faire, la façon la plus adaptée au type de joueur qu'on est, c'est-à-dire des joueurs casus, pas des pro-gamers, pas des mecs qui vont jouer tous les soirs comme des fous furieux, mais des gens qui vont venir une ou deux fois par semaine et qui ont envie de bien s'amuser, d'avoir un style de jeu sympa, bien organisé, encadré, pour tirer le maximum de plaisir du jeu malgré leur expérience, variable d'un membre à un autre et inégale. Donc, et cette réflexion elle est même va au-delà même des 2 dernières années de travail qu'on a eu sur Planet Side 2, puisque, comme vous savez, les scorpions ça a 10 ans. Et avant, les vieux papis de mon genre chez LSD ont joué sur PlanetSide 1 et on avait déjà mis en place ce type de fonctionnement, ce type de jeu. Donc c'est de notre point de vue ce qui marche le mieux pour, encore une fois, le type de joueur qu'on est. Voilà, donc ça c'est ma petite introduction. Il y a grosso modo 4 points essentiels qu'il va vous falloir appliquer tout le temps. Il va falloir contrôler en permanence la composition de votre escouade. Ensuite, il va falloir, comme je l'ai dit, jouer en groupe. Toujours. Bien pratiquer, troisième point, bien pratiquer l'espèce de karma qui est on se déploie, on se regroupe, on se déplace, de façon à ne pas perdre la cohésion du groupe. Et quatrième point, donc pratiquer un jeu qui soit tactique et discipliné. Il y a tout un tas de petites astuces à faire. Ensuite, une fois qu'on aura passé sur ces 4 points de base, je parlerai un petit peu de l'interaction entre le chef d'escouade et le chef de section. Alors, en ce moment, on n'est pas très nombreux, on tourne à une ou deux escouades, voire 3 qu'on a de la chance. Sur les grosses soirées, et on pratique plutôt le lead en type lead de grand-mère, c'est-à-dire que en fait, même si on est 2 escouades, dans la pratique on est une grosse escouade et tout le monde suit le chef de section comme si c'était un chef d'escouade. La raison pour laquelle on joue pas mal comme ça en ce moment, c'est qu'on a beaucoup de débutants et les gens sont partis en vacances, ils reviennent, ils sont un peu rouillés, donc faut remettre les fondamentaux. Mais si, comme on l'espère, on arrive à réunir 4 escouades, on passera en mode de jeu chef de section, chef d'escouade, qui est un mode de jeu hiérarchique pyramidal, qui, pour le chef d'escouade, impose un certain nombre de contraintes et de pratiques dont je vous parlerai. J'irai en troisième partie, au travers d'une liste de tout un tas de recommandations. Puis vous n'hésitez pas à poser vos questions à ce moment-là, qui sont un peu sur tous les sujets, c'est vraiment les trucs et astuces de la boîte à outils du chef d'escouade, quoi. Voilà. Alors, on va passer au principe de base. Donc, comme je le disais tout à l'heure, quatre points essentiels qu'il faut tout le temps appliquer et garder en tête quand on est chez les squads. Donc, le premier point, c'est contrôler en permanence son escouade dans sa composition. Si vous laissez faire, les gens vont changer de classe quand ça leur chante. Il faut absolument éviter ça. Il faut que vous soyez aux commandes du nombre de la répartition entre les nombres d'assauts lourds, de médics, d'ingé, etc. Donc le truc classique quand on est chef d'escouade débutant, c'est on prend 4 médics, 2 ingénieurs et tout le reste en lourd. Ça, c'est facile. Ensuite, quand vous serez un petit peu plus aguerri, vous allez introduire un fufu qui va vous permettre de poser des détecteurs, d'être un peu votre œil en dehors pour voir ce qui se passe autour. Un assaut léger qui va faire des coups foireux ou aller chercher des balises ennemies difficilement atteignables, des choses comme ça. Vous allez avoir un ou deux max, bon, vous allez être beaucoup plus versatile. Mais si au début vous cassez pas la tête, hein, vous prenez 4 médics, beaucoup de médics ça permet d'être sûr que l'escouade survit bien, 2 ingés pour les munes, et puis et les prises de position, et puis le reste en gros, quoi, vous cassez pas la tête. C'est vraiment important de bien faire comprendre à vos gars qui ne doivent pas changer intempestivement de classe. Alors moi, ce que je fais généralement quand je prends une escouade en main, c'est que je fais un petit rappel des bonnes pratiques qu'on a de par chez nous, en disant aux gens, ne changez pas de classe. Si vous voulez changer de classe, demandez-le moi. Généralement, je dirais oui, mais il faut que ce soit validé par votre chef d'escouade. Sinon, ça va être ah merde, on n'a plus de médic, ou on n'est plus d'ingé, ou des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment hyper important, quoi. Le réflexe permanent. Alors le problème, c'est que dans le feu de l'action, on n'a pas toujours le temps de le faire. Donc petit conseil, faites-le lors des redéploiements, des moments de repos ou de break. Donc vous redéployez dans le Galaxy ou dans une autre base. Hop, un petit coup d'œil. Un petit coup d'œil sur la composition de l'escouade pour vérifier que qu'il n'y en a pas qui sont passés n'importe comment à n'importe quoi. Les débutants, par exemple, le coup classique, c'est chez les débutants, c'est qu'ils ont sorti un max, ils se redéploient, ils sont légers, et ils ne s'aperçoivent pas qu'ils sont passés légers. Donc voilà, genre de petites choses, quoi. Alors, deuxième point que le chef d'escouade doit absolument contrôler et d'une main de fer, c'est bien de faire comprendre aux gens qu'on joue en groupe. Alors ça, on le dit, on le répète tout le temps, tout le temps, tout le temps chez les LSD. Le jeu qu'on a est une action de groupe, pas d'initiative personnelle. Les initiatives personnelles ne se font que à la demande du chef d'escouade, donc ce ne sont pas des initiatives en fait, hein. C'est-à-dire que le chef d'escouade va dire, tiens, machin, est-ce que tu peux aller voir ce qui se passe à tel endroit, ou surtout quand si on a un fufu dans l'équipe, va poser un détecteur à tel truc, va hacker machin, ou bidule, sors-moi un disperseur, ou va réparer la console de véhicule, ou des machins comme ça. Donc c'est toujours que sur ordre. Le gars qui commence à jouer les filles de l'air, à prendre l'initiative, à sortir un véhicule parce qu'on lui a pas de sans qu'on lui en demandait, etc., faut tout de suite le recadrer. Tout de suite, tu dis t'es gentil, mais tu demandes. C'est pas et tu expliques, hein, faut expliquer aux gens. Vous dites c'est pas pour vous faire chier, c'est pas pour jouer les dictateurs ou quoi que ce soit. C'est parce que sinon, je suis pas au courant de ce qui se passe et ça devient n'importe quoi. Je l'ai encore vu il y a 2 jours, un petit nouveau qui avait sorti un disperseur parce
User in your
que
channel
il
timed out.
trouvait que c'était la bonne idée. Et résultat, ben, il y a eu 2 dispés, les gens n'ont pas monté pour la moitié d'entre eux dans le bon disperseur, qui n'est pas allé au
User
bon
entered your
endroit.
channel.
Et donc, ben voilà, l'escouade, elle était scindée en deux, c'était le bordel, et on a perdu 3 minutes et expliquer dans quel disperseur il fallait aller, où il faut aller, comment se répartir, etc. Donc ça, vraiment, à proscrire, tout de suite, taper sur les doigts du gars qui a fait ça, et en lui expliquant gentiment pourquoi on le fait pas. Donc, l'escouade se déplace toujours comme un essaim. Hein. Et vous, le meilleur conseil que je puisse vous donner, vous en tant que chef d'escouade, c'est que vous menez la danse en faisant, ok, on se déplace, hein, on se regroupe, tout le monde est là, ok, on se redéplace, machin. Donc si vous faites un redéploiement, typiquement, vous faites un redéploiement dans un point de spawn, on attend que tout le monde ait respawné, on vérifie les classes, et ensuite on y va. Mais il faut vraiment que tout le monde soit là. Sinon, ce qui va se passer, c'est que l'escouade va s'étirer, telle une chenille, et les gars, quand ils vont arriver sur le point chaud, ben ils vont se faire descendre les uns après les autres. Alors que si tout le monde est arrivé en groupe, de façon bien coordonnée, on aurait marché sur les adversaires sans problème. Donc vous arrivez à l'approche d'un bâtiment, vous pensez qu'il y a une menace dans le bâtiment, et ben vous regroupez de part et d'autre de la porte, vous balancez un détecteur, déjà ça vous donnera sur le radar une idée de ce qu'il y a, balancez des grenades, une commo, et une fois que la commo est pétée, sur ordre, tout le monde rentre en mettant les boucliers, les lourds devant. On fait du nettoyage, les médics balancent leurs grenades de res si au besoin, et on pousse tous ensemble et on y arrive sans problème. Donc vraiment le jeu de groupe, super important. Alors vous avez un outil magique pour mener vos gens à la baguette, c'est le point vert, le point des squads. Ce truc-là, faut tout le temps en abuser. Et il faut que, en permanence, votre point d'escouade indique là où les gens doivent se regrouper. Éventuellement, les points d'attaque, en ayant bien fait comprendre aux gens, attention, ça, c'est ce point-là qu'on va attaquer. Donc les gens voient le point d'attaque avec le point vert. Ensuite, vous le replacez là où les gens doivent se regrouper en préparation de l'attaque. Donc, quand on est dans un jeu en section, où il y a plusieurs escouades, les gens peuvent être perturbés par les autres points de section, les points alpha, bravo, etc. Moi, ce que je fais dans ce cas-là, c'est que j'explique bien à mes gars que le seul point pour eux qui a une importance, sauf contre ordre explicite et bien explicité, le seul point qui a de l'importance pour eux, c'est le point d'escouade, le point de l'escouade, le point vert. Les points triple chevron ou le point de section double chevron jaune, on est là uniquement que pour communiquer entre le chef d'escouade, les chefs d'escouade et le chef de section. Les grunts de l'escouade, eux, c'est le point vert, et au-delà du point vert, pas de salut. Donc c'est un des trucs que je fais dans mon brief de prise d'escouade. Je le répète, les gars, c'est le point vert, le reste, ça ne vous concerne pas. Voilà, donc le jeu déploiement, regroupement, déplacement en groupe, l'union fait la force, c'est la base du jeu LSD. Ce qui est important, et ça c'est le quatrième point, c'est l'histoire du jeu tactique et discipliné, c'est que ça marchera que si vos gens comprennent que c'est comme ça que ça se passe et comprennent l'intérêt que de jouer comme ça. Donc, ce que je vous conseille, quand vous en avez le temps, c'est, et pendant que vous menez vos gens à la baguette, c'est de leur donner de la perspective sur l'action globale. Et il faut qu'ils comprennent, que vos grunts comprennent qu'il y a un plan derrière, que, pas forcément que vous êtes un super stratège, mais que vous les menez à tel endroit parce qu'il y a une base qui va être prise, parce qu'il y a une action de groupe avec les autres escouades, parce que le Zerg NC est là, parce que il y a... Donc donnez des perspectives à vos hommes, comme ça ils vous suivront d'autant plus volontiers, parce qu'ils auront bien compris que si on fait ça, parce qu'il y a une bonne raison, il y a une idée derrière la tête, il y a un plan, il y a quelque chose, et que ça va le faire. Alors... Il me dit que j'ai été déconnecté pour manque d'activité. Voilà, c'est ça de parler. Pendant que je vais continuer mon blabla pendant que je lance le jeu. Ce que ça vous permet d'éviter aussi de donner de la perspective aux gens, C'est que ça vous permet de rester en contrôle de ce qui se passe et d'éviter l'effet grand-mère. L'effet grand-mère, c'est le grunt dans votre escouade qui a passé son temps à dire: ah ouais, mais là il faudrait qu'on aille là parce que ce serait mieux si on faisait ci, puis ce serait mieux si on faisait ça, etc. Le grunt n'a pas à donner son point de vue tactique sur l'action. Vous pouvez le solliciter, hein. Des fois, moi j'ai des vétérans qui donnent leur point de vue et c'est intéressant. Je dis: ouais, bonne idée, on va faire ça, etc. Mais ça doit rester l'exception. Goyim, quand je suis dans son escouade et qu'il est chef d'escouade, et c'est encore arrivé il y a très récemment, ne va pas hésiter à me recadrer si je fais ma grand-mère, en disant: ouais, tiens, et là il faudrait faire ci, et puis on s'est fait baiser parce qu'il y avait ça, etc. Je veux dire, Goyim, il s'en fout. Il est le chef d'escouade, c'est lui qui prend les décisions. Moi, je suis pas là pour donner mes bons conseils, ou alors je passe chef d'escouade. Donc, comment dire, le chef, c'est vous. Si vous vous laissez polluer par les avis contradictoires des grunts, même les bons, hein, vous arriverez nulle part. C'est-à-dire que tout le monde va donner son avis, qui peut être très intelligent, hein, mais c'est vraiment pas le propos. C'est vous qui donnez les ordres. Il n'y a pas de mauvais ordre. Vous donnez l'ordre, les gens suivent, c'est exécuté, ensuite ça marche pas. Mais c'est vous qui êtes aux commandes et vous ne laissez pas parasiter par toutes les bonnes idées de tous les petits copains. Ensuite, donc évidemment, s'il y en a qui se rebiffent ou qui s'énervent ou des machins comme ça, vous les recadrez gentiment avec diplomatie. Et une fois que les actions sont terminées, en fin de soirée par exemple, vous faites un débrief. Et pendant ce débrief, vous invitez les gens à faire leurs commentaires sur les actions qui sont passées, sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, etc. Ce débrief est important parce que vous, en tant que chef d'escouade, vous allez comme ça recueillir les commentaires de vos gars et voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et comment améliorer votre propre lead. Donc, n'ayez pas peur de le faire. Si vous faites taper sur la gueule par les gars, c'est pas grave. Et généralement, ça se passe jamais. Tout le monde vous remercie et on discute de façon constructive des trucs et ça se passe toujours très bien. Donc, faites ce débrief, mais pendant toute l'action de jeu, c'est vous le chef. Donc ça, je dirais, c'est les quatre points fondamentaux du jeu LSD. Et du rôle du chef d'escouade. Est-ce que, avant que je passe à la suite, est-ce que déjà vous avez des questions sur ce plan-là?
Ça va.
C'est bon?
Non, pour l'instant, ça
Ok.
va.
Bon, bah on va continuer alors, c'est que j'ai été clair. Alors, on va discuter un petit peu de l'avenir, de ce que le jeu sera dans quelques semaines, j'espère, qui est donc comment est-ce qu'on s'y prend quand on évolue en section, et donc il y a plusieurs escouades qui évoluent en même temps sous les ordres d'un chef de section. Alors, relisez bien le tuto, enfin il y a plusieurs tutos, il y a évidemment le tuto TeamSpeak, mais ça normalement c'est bon. Il y a un tuto pour les LSD, pour les gens de PSD, pardon, qui donne des conseils de programmation du pavé numérique pour pouvoir parler aux autres escouades. Il est hyper important que vous ayez programmé toutes ces touches parfaitement. Parce que vous allez commencer une soirée en tant que chef d'escouade, vous êtes peut-être une seule escouade, puis ça se passe bien. Et puis il y a plein plein de gens qui arrivent, parce que c'est une super soirée. Et on vous retrouve à deux escouades, trois escouades, etc. Et là, à ce moment-là, on désigne un chef de section. Pas vous, parce que vous êtes des chefs d'escouade juniors, je dirais. Et là, vous dites: mais merde, j'ai pas programmé mes touches. Et là, vous avez planté votre soirée, parce que vous allez rater un truc super, et vous allez être obligé de repasser la main à un autre chef d'escouade qui lui a programmé ses touches, et vous allez rater la pratique du jeu multiniveau, tel qu'on la pratique chez les LSD, et qui est vraiment super intéressante. Faites l'effort de programmer vos touches de façon à pouvoir parler aux autres des squads et aux chefs de section. Le jour où ça va vous tomber dessus, vous serez super content de l'avoir fait. Parce que, encore une fois...
Attends, t'es en train de laguer, on t'entend plus.
Tu bugs un peu.
Je lag ?
Ça y est, ça va mieux.
C'est pas possible que je lag.
En train de... Ah non, tu recommences ?
Ah bon ?
Ou c'est moi ?
Moi, et les... Vous... Exo, tu m'entends ou pas ?
Moi, c'est bon.
D'accord, bah c'est peut-être, bon, c'est peut-être... Qui... Ouais. Peut-être toi, Gargantuel. Parce que je suis quand même en fibre optique, donc j'ai du mal à croire que je lag.
Ça saccade.
Ah bah tu vois,
non, ça commence à saccade là, des fois.
D'accord, alors attends, est-ce que c'est bon, le fait que j'enregistre ?
Non mais ça me faisait pareil hier pour la formation aérienne,
d'accord.
C'est le TS.
Ok, bon, je vais continuer doucement, et puis, bon comme je l'ai dit, j'enregistre, donc avec un petit peu de chance, l'enregistrement étant fait en local, ça sera bon quoi. Donc qu'est-ce que je vous racontais ? Ouais, alors la communication avec le chef de section.
Qu'il fallait configurer les touches.
Ouais, il faut configurer vos touches, vous me remercierez un jour. On a mis au point un système avec des paroles prioritaires, des groupes, etc. Tout se fait automatiquement par le robot de notre serveur sur TeamSpeak. Et ça vous permet avec des combinaisons de touches de pouvoir parler en privé avec le chef de section ou avec les autres chefs d'escouade sans gêner vos grunts. Alors, premier truc, donc les points de communication sont hyper importants avec vos chefs de section. Vous référerez à l'autre formation que j'avais faite, formation chef de section, pour avoir plus de détails. Donc, je vous donne juste là maintenant la version résumée, qui est que grosso modo, c'est un petit peu comme si vous étiez un grunt dans une escouade de niveau supérieur quand vous êtes avec votre chef de section. Sauf que c'est une escouade où il y a juste 2 ou 3 ou voire 4 grunts, qui sont les 2 ou 3 ou 4 chefs d'escouade. Le truc qui est vraiment important, c'est de toujours rendre compte à son chef de section, donc lui impliquer les procédures radio de manière impeccable, c'est-à-dire quand il vous donne un ordre, vous tout de suite vous collationnez, vous dites que vous avez reçu, vous lui dites ce que vous faites. Informez-le sur ce qui est en train de se passer, surtout quand les choses vont mal. Informez-le avant que les choses aient tourné au vinaigre. Si vous êtes tous morts et que vous lui dites on est tous morts. Que c'est trop tard, ben c'est trop tard quoi. Donc c'est un peu comme dans le film là de l'an dernier sur le un pont trop bien là. C'est Jinx commence à avoir des soucis, elle prévient son chef de section à temps de façon à ce que son chef de section puisse lui envoyer une escouade de renfort. Rendez compte à votre chef de section des ordres qu'il vous a donné et rendez compte de la situation sur le terrain parce que lui il a pas forcément la vision de ce qui se passe. Voilà. N'oubliez pas non plus que le chef de section il parle à tout le monde. Il est peut-être déjà en train de parler à quelqu'un d'autre au moment où vous lui adressez la parole. Donc faites des messages courts et le spammez pas. Et si vous vous apercevez qu'il vous a pas du tout répondu, parce que lui aussi est censé vous acquitter vos messages, refaites un petit message derrière quoi. Voilà. Et pareil, faites pas votre grand-mère par rapport au chef de section. C'est-à-dire que lui, il donne ses ordres et vous les suivez. Ensuite, vous pouvez, si vous voyez qu'il y a un petit moment de pause, vous pouvez ou qu'il vous sollicite, hein, ce qui arrive très régulièrement, vous pouvez donner votre bon avis, mais ou lui faire remonter que vos joueurs se font chier ou qu'ils sont pas contents ou qu'ils se fatiguent ou des machins comme ça. Mais sinon, vous faites pas votre grand-mère vous non plus. Voilà, donc ça c'était la deuxième partie, petite partie, hein, sur l'interaction avec le chef de section. Encore une fois, reportez-vous à la formation chef de section, vous verrez, il y a des infos à glaner. User joined your channel. Maintenant je vais vous... Salut Aldemir. Maintenant, Salut. Je vais vous parler en troisième partie de petits trucs et astuces, détails pratiques sur la gestion de l'escouade. Le chef d'escouade au quotidien, on va dire. Donc, on va reparler communication, reparler radio. Un machin qui va vachement vous aider en tant que chef d'escouade dans votre pratique, c'est d'avoir la main sur le flow de paroles. La partie audio, c'est vous qui devez avoir la main, c'est vous qui devez être le maître à bord. Il faut absolument maîtriser le débit des paroles de votre escouade. Si vos grunts, croyant bien faire, vous signalent 15 000 de problèmes dans tous les sens, vous allez avoir le cerveau qui explose, tout le monde va plus savoir quoi faire, et puis vous arriverez à rien. Donc, regardez comment Mojok fait, c'est simple, on n'entend que lui. C'est pas compliqué. Donc, il y a que lui qui parle, ben il y a que lui qui parle. Et du coup, les gens suivent. Expliquez bien à vos grunts que s'ils veulent signaler quelque chose, ils ont une façon très simple de le faire, qui est simplement la touche de désignation, hein, la touche A pour la plupart des gens. Ils voient un ennemi, ils le désignent avec le HUD, et du coup, tout le monde le voit sur le radar. Il n'y a pas besoin de dire il y a un disperseur ennemi à l'ouest, tout le monde le voit. Et le particulier, vous, le chef des squads, vous le voyez. Donc déjà, ça va beaucoup calmer le flot de parole dans les squads. N'hésitez pas à le rappeler à vos gars pour limiter ce qu'on appelle le flood. À partir du moment où vous avez la main sur la radio, et sur le flot de parole, vous allez voir, le lead va être beaucoup plus simple. Parce que ben, quand vous parlez, c'est vous qui parlez, les gens vous écoutent, et ça roule. Ça permet aussi de faire en sorte que le canal vocal soit libre pour les informations vitales. Parce qu'il y a des fois, effectivement, il faut vraiment que vous entendiez ce que disent un gars, du genre, il y a un gal drop sur notre gueule. Oui, ça c'est vital quoi. Faut vraiment que cette info elle passe. Donc si le canal est saturé de gens qui parlent dans tous les sens, et ben cette information vitale là ne passera pas et tout le monde se fera baiser. N'hésitez pas, hein, si vous voyez que ça floude, vous demandez le silence. Hein. D'autre part, dites aussi aux gens quand vous êtes en communication avec votre chef de section et que du coup vous n'êtes pas disponible pour leur parler. Vous dites simplement radio. Tout le monde comprendra que vous êtes en train de communiquer à la radio sur un autre canal, et que donc il faut qu'il se calme et qu'il fasse silence parce que ben vous avez qu'un cerveau et deux oreilles, et sinon vous n'allez pas y arriver. Voilà, donc ça c'est le mot-clé radio, tout le monde comprend, hein, ça marche très bien. Voilà, donc ça c'était pour la communication radio. Ensuite, donc impliquer, motiver ses grunts, ça j'en ai déjà parlé, donc je vais pas vous faire. Je ne vais pas vous refaire le topo, c'est une redite. N'hésitez pas à répéter vos ordres, sinon. Ceci c'est la technique Mojok, il n'y a pas de doute, ça marche. Hein. Quand vous dites au gars avancez, 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 tirez, 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 à la fin il tire. Hein. Si vous voyez qu'une consigne est mal comprise, n'hésitez pas à la répéter. Évitez les longs moments où vous dites rien. Parce que du coup, les gens vont se demander ce qui se passe, ils vont croire qu'il n'y a plus de pilote à bord, et du coup, ben, ça y est, ils vont commencer à faire n'importe quoi. Donc répétez, c'est pas grave, personne ne vous en voudra, et ça marche super bien. Voilà. Donc ça, c'est... concernant les ordres... Quand vous donnez un ordre ou une consigne, il faut absolument être sûr qu'elle va être exécutée. Sinon, et bien exécutée. Sinon, ça sert à rien, quoi. Donc, vous donnez une consigne à quelqu'un, assurez-vous qu'il l'ait comprise et qu'il exécute. Vous demandez à un tel de sortir un véhicule ou de prendre une classe, machin. Il faut qu'il vous réponde. Il faut qu'il vous dise, ne serait-ce que bien pris ou reçu ou machin comme ça. S'il le fait pas, vous pouvez vous demander ce qui se passe, et donc n'hésitez pas à répéter l'ordre et à demander explicitement s'il l'a bien compris, parce que sinon vous allez attendre, et si vous attendez, tout le monde attend. Alors moi, j'ai un petit truc concernant les trucs classiques, les ordres classiques du genre sortie de véhicule. Je le mets aussi dans mon briefing, mon petit briefing de prise de poste. Ce que je dis aux gens, c'est que quand je demande un véhicule en particulier, bah, c'est le premier qui répond qui a gagné. Comme ça, les gens sont motivés pour agir rapidement. Et puis il n'y a pas de discussion du ben je le prends, je sors le disperseur, puis un autre qui dit je sors le disperseur, et un troisième je sors le disperseur, et du coup vous êtes obligé de dire bon alors ok, c'est un tel qui va le sortir. Moi j'ai pas le cerveau pour ça. Donc je dis à mes gars, voilà, c'est le premier qui parle qui a gagné, et puis les autres ils se la ferment, et ça marche très bien. Une petite astuce que j'ai trouvé qui marchait pas mal. Voilà, donc assurez-vous hein, qu'une consigne soit comprise et exécutée. Sinon, vous allez perdre en efficacité, et dans le cours, dans le support du cours, ils disent que vous allez perdre en crédibilité, de toute façon. Alors, la question qu'on pose souvent, c'est quelle est la classe recommandée pour le chef d'escouade ? Quasiment tout le temps, vous prendrez l'assaut lourd. Alors, il y a des gens qui ne le font pas. Banania, par exemple, bosse pas mal en médic. Mais encore une fois, il est dans une config un peu spéciale, qui lui, c'est souvent en lead des squads de nuit, petit effectif, il fait du jeu tactique, de support tactique, donc et puis c'est juste un joueur excellent, donc il n'y a pas de souci. Moi, je suis nul, donc je prends un assaut lourd, je vais devant, je suis le premier à me faire descendre, c'est pas grave, j'ai un médic derrière moi qui me reste et on poursuit. Donc l'assaut lourd, comme vous serez toujours comme moi en première ligne en tant que chef d'escouade, c'est quand même bien pratique pour arriver à tenir le premier choc. En plus vous avez un petit peu le bouclier là, qui va vous aider un peu dans les situations critiques. Évitez de prendre un max, sauf dans les cas type max crash ou des choses comme ça. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes max, vous n'allez pas pouvoir poser de balise de réapparition. Or, en tant que chef d'escouade, c'est super important que quand vous arrivez dans un point qui risque d'être contesté, et que le disperseur n'est pas tout de suite à côté, ou même d'ailleurs, même quand le disper est à côté, moi je pose une balise. C'est toujours un réflexe à avoir. Si les choses se passent très très mal, vous avez ce dernier, si tous vos médics se font descendre, vous avez cet ultime recours de poser une balise. Alors, la position de la balise, c'est toujours un sujet délicat. Moi, quand je suis dans une carte SIM, vous pouvez la poser dans les escaliers qui mènent à l'extérieur, qui mènent au toit.
C'est là qu'on la met toujours moins, d'ailleurs.
Ouais, c'est un petit peu moins exposé. La balise peut être aussi un leurre pour l'ennemi. C'est-à-dire que vous pouvez poser une balise à un endroit manifestement visible de l'ennemi pour l'attirer et avoir tous vos gars qui tendent une embuscade autour et qui massacrent les gars qui se précipitent pour taper la balise. Ça peut être aussi un truc rigolo à faire de temps en temps. Voilà. Enfin bon, pour à la question classe recommandée pour chef d'escouade, je recommande le lourd. Ensuite, position dans les véhicules. Alors, quand vous êtes chef d'escouade, ne prenez pas le pilotage des véhicules, sauf exception. Parce que quand vous êtes chez les squads, vous êtes le nez dans la map. Vous avez, et ça j'en parlerai tout à l'heure, des responsabilités d'analyse tactique, voire stratégique. Vous pouvez pas en même temps conduire un véhicule, vous avez juste autre chose à faire. Donc ne prenez pas le pilotage du véhicule, et de même ne prenez pas les postes de tir des mitrailleuses, etc. du véhicule pour la même raison. Au passage, n'oubliez pas de répéter à vos gars de ne pas tirer à tort et à travers sur tout ce qui passe, en particulier quand vous êtes dans un disperseur. On ne s'amuse pas à attirer l'attention des chars ennemis ou des avions ennemis en les chatouillant à la mitrailleuse lourde. C'est débile. C'est le meilleur moyen de s'attirer les ennuis. Donc on ne tire avec avec ses armes de véhicules de transport uniquement quand on se fait attaquer. Et n'hésitez pas à le rappeler. Voilà, donc les postes à responsabilité, parce que vous êtes en train de réfléchir, parce que vous êtes en train de regarder la map, etc. Donc pas de poste de conduite ou de tir dans des véhicules. Les petites tactiques simples, moi il y a tout un tas de tactiques de base, toujours sur le principe du déploiement, regroupement, déplacement. Vous les connaissez si vous avez un petit peu d'expérience, hein, on fait passer les lourds devant, les max devant et les médics derrière avec les ingés. C'est du basique, hein, mais n'hésitez pas à le rappeler à vos gars. Hein. comme il est dit en début du cours, vos grunts, ils ont le goût du sang dans la bouche, ou alors c'est comme si vous larguiez des ados dans un pensionnat de jeunes filles, ils vont courir dans tous les sens et se précipiter, etc. Donc recadrer, ils ont tenté de... Oula, les lourds d'abord, hein, qui encaissent le premier choc, avec la, qui délivre la puissance de feu, les médics derrière, les médics toujours en position protégée, jamais à découvert. Donc les médics, on a besoin pour les médics de gens qui ont des cerveaux. Hein. Et les ingés, toujours en réflexe, on pose les munes dès qu'il y a un petit point de regroupement. Et puis, s'il y a des max, il faut qu'il y ait absolument qu'il y ait un ingénieur derrière chaque max. Hyper important. Vous pouvez même pratiquer ce qu'on appelle le chouchou, où vous avez un max, un ingé et un médic, donc une espèce de trinôme, qui avance avec une bonne pratique, c'est des configs qui marchent bien. Voilà. Vous, en tant que chef d'escouade, vous allez passer votre temps à regarder la minimap. Si vous avez un fufu, faites-lui poser des détecteurs pour essayer de choper de voir d'où vient l'ennemi. Sinon, vous avez la baliste, là, moi, que j'utilise pas mal, qui va permettre d'envoyer des petits détecteurs un peu partout et de voir par où l'ennemi va arriver. C'est un machin, par exemple, que j'utilise avant de faire l'assaut d'un bâtiment. Je vais balancer un détecteur dans le bâtiment pour essayer de juger de la force adverse, voir s'il y a beaucoup de monde, s'il va falloir beaucoup grenader ou pas. La minimap, ça vous permet de voir où est l'ennemi, ça vous permet évidemment de vérifier si vos gars suivent lors de déplacement. Et dès que vous en voyez un qui est en train de, comme je disais, de faire les filles de l'air, là, tout de suite vous pouvez le recadrer par son numéro ou par son nom, dire qu'est-ce qui se passe, reviens, etc. Donc ça, c'est la minimap. Le point d'escouade, j'en ai parlé. La balise de réapparition, j'en ai parlé. Un point important, c'est pareil, je le rappelle dans mon brief de prise de poste, il est hors de question que vos grunts réapparaissent d'eux-mêmes. Ça paraît super, super autoritaire, ça, comme machin. Il faut vraiment que vos grunts comprennent pourquoi. Quand ils sont morts, il faut qu'ils attendent l'ordre de redéploiement. Parce que ce qui va se passer, c'est que entre le point de redéploiement, donc le disperseur par exemple, et le point d'attaque, il y a une certaine distance. Si les gens y meurent, ils réapparaissent, ils refont le chemin pour revenir, ben, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont revenir les uns après les autres et se faire descendre les uns après les autres. Ils n'arriveront pas en groupe. Donc, on dit aux gens, pas de redéploiement sans ordre. Dans certaines situations exceptionnelles, vous allez dire aux gens, ok, vous redéployez en boucle, vous revenez, etc. Si on fait une attaque en feu continu, mais d'une manière générale, c'est pas la tactique de base. La tactique de base, c'est tout le monde se redéploie au spawn ou au dispé, et une fois que tout le monde y est, hop, on y va. Tant qu'il y a des médics sur place, il n'y a aucune raison de se redéployer sur un point de spawn. Les médics, ils vont faire leur boulot et ils vont relever les gens. Et on gagnera du temps et on évitera de disperser les spawns. Donc, pour toutes ces raisons-là, il faut absolument que vous fassiez passer le message que vos gars ne respawnent pas d'eux-mêmes sans avoir demandé la permission. Alors, évidemment, il va y avoir un moment où, si tout le monde s'est fait descendre, qu'on est wipe, comme on dit, évidemment, il va falloir que vous donniez rapidement une consigne, parce que les gens vont se dire « Bon, bah, ok, c'est bien joli, mais là, on joue plus. Et on est quand même là pour jouer. » Donc, s'il faut que les gens restent morts et tendus par terre, parce que on va redéployer un Galaxy, ou parce que on attend l'ordre du chef de section pour aller ailleurs, vous l'expliquez. Dites au gars, ok, attendez, j'attends l'ordre, ça va venir, vous inquiétez pas. Parce que s'ils réapparaissent à un autre endroit, et qu'on l'ordre tombe en disant, ok, redéploiement à tel endroit, ben il va falloir qu'ils attendent les fameuses 10 secondes, et c'est 10 secondes de perdu pour le redéploiement. Et 10 secondes, c'est beaucoup. Hein. Voilà. Donc, c'est important de bien faire passer ce message-là, et de surveiller ce qui se passe, et de, mais sans faire en sorte que ça devienne une contrainte de jeu pour vos joueurs. Quoi. Bon, généralement, quand les gens ont bien compris le jeu en groupe, ça se passe tout seul. Quoi. Alors, parmi encore les petits conseils, on arrive presque au bout de la formation, là, je suis allé assez vite. Il y a des petits... Alors, toujours pareil, si vous avez des grunts qui sont inactifs parce qu'ils sont AFK, par exemple, ou des choses comme ça, ben, il faut l'expulser. Parce qu'ils vont prendre la place de quelqu'un d'autre. Donc, soit on est dans une section assez grande et avec plusieurs escouades et on peut éventuellement faire passer le gars qui est AFK dans une autre escouade, escouade PU ou des machins comme ça. Soit vous êtes une seule escouade et le gars il est AFK, il peut pas venir, bon bah, faut faire la place pour les copains, hein, donc expulsez-le. Une escouade. Par essence, une escouade, ça doit être fait que de joueurs qui sont actifs, quoi. Et puis c'est tout.
Petite remarque, même si on est dans une carte SIM et que le joueur en a pour quelques comptes.
Bah, le truc, c'est que si un joueur dit je suis AFK ou j'ai besoin d'aller aux toilettes, AFK bio, etc., il a prévenu. Donc là, déjà, tu dis ok, vas-y, dépêche-toi. Mais le problème que tu vas avoir en tant que chef des squads, c'est que à tout moment, tu peux avoir les BRTD qui te tombent sur la tête, quoi. Et donc, il faut au minimum que tu sois au courant que tu as un gars qui va pas être disponible, surtout si c'est un médic, t'imagines. Pour te simplifier la gestion, si le gars va être AFK de façon prolongée, ou s'il répond plus, s'il est complètement à la ramasse, bah, t'es obligé de l'expulser parce que sinon, tu vas plus comprendre, tu vas passer ton temps à compter tes gars. Il dit mince, il m'en manque un. Les autres vont dire bon, où c'est qu'il est lui. Ton chef de section va te demander des comptes. Enfin bon, c'est le bordel. Voilà. Et leur dernier petit conseil, un truc à pas oublier, c'est quand vous arrêtez d'être chef d'escouade. Parce que vous devez vous déconnecter, chose comme ça. N'oubliez pas de passer la main. N'oubliez pas de désigner un autre chef d'escouade. Alors vous demandez un volontaire. Et puis s'il n'y a pas de volontaire qui se propose, ben vous en désignez un en le félicitant pour sa promotion. Et puis voilà. C'est pas la fin du monde. Hein. Mais ne partez pas en laissant l'escouade n'importe comment, ça se fait pas, quoi. Donc faut que votre nouveau chef d'escouade soit désigné, qu'il soit bien sur TeamSpeak, etc. Voilà, donc ça j'ai fini le commentaire de ce qu'il y a sur le tuto. Et je m'aperçois qu'il manque un certain nombre de choses que j'ai notées sur un petit papier, donc je vais poursuivre. Et puis ensuite, on pourra passer aux questions-réponses. Il y a un truc dont j'ai pas parlé, mais qui est important, qui est votre début de soirée. Quand vous êtes chef d'escouade, il va falloir assez rapidement vous arriviez à jauger le niveau de votre équipe. Est-ce que vous avez affaire à des gens qui sont réactifs ou pas, des vétérans, des débutants? Tout ça, il faut que vous arriviez à le juger assez rapidement, de manière à pouvoir adapter votre jeu et vos ordres au groupe que vous avez sous vos ordres. C'est comme je disais en introduction, votre rôle, c'est de faire en sorte qu'ils aient la meilleure expérience de jeu possible. Donc si vous demandez des trucs infaisables à un groupe de débutants, ils vont vraiment pleurer leur maman et ils vont pas s'amuser. Il est important que vous sachiez, par exemple, si vos gars sont capables de faire un redéploiement très rapide et bondir dans un galaxy pour faire un autre drop à un autre endroit, à fond les manettes, ou c'est plus pépère et quand ils sortent qu'on sort un disperseur, il vaut mieux attendre que tout le monde ait compris qu'on sortait un disperseur et qu'il est là et qu'on monte dedans, tout ça. Auquel cas, vous allez adapter votre niveau de jeu. Être moins exigeant sur les actions, et vous allez choisir des objectifs plus faciles ou choisir d'aller plus avec le Zerg NC plutôt que de la jouer comme si vous étiez les Space Marines de niveau 40 quoi. Donc essayez d'avoir cette appréhension du niveau de votre groupe assez rapidement, sachant que ça va évoluer dans la soirée. Il y a des nouveaux personnes qui vont arriver, il y a d'autres qui vont partir. Si ça se trouve, vous allez basculer d'un mode de jeu où vous étiez une simple escouade en multi, un mode de jeu en section. Donc vous allez pouvoir revoir vos objectifs à la hausse ou à la baisse. Donc constamment regardez ça dans un coin de votre tête en disant bon attention mes gars là ils sont pas super OP, ou alors au contraire ils sont c'est bon. Généralement moi ce que je constate c'est que au bout d'une heure l'équipe commence à bien tourner, les gens sont bien chauds, et alors là vous pouvez monter le niveau, vous pouvez faire des trucs plus couillus. C'est généralement en deuxième heure qu'on s'amuse vraiment, et vous leur demandez voilà. Et les gars ils vont s'en apercevoir, ils vont s'apercevoir qu'ils font des choses plus balèzes que ce qu'ils faisaient en début de soirée. Ils vont apprécier la chose et vous allez les féliciter, n'hésitez pas à le faire. Et c'est vraiment dans ces moments là qu'on passe de très très bons de très, 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 très bons moments de jeu et de jeu de groupe, et qu'on savoure, je dirais, la récompense d'être chef d'escouade et d'avoir fait bien son boulot, quoi. Ça, c'est vraiment super. Voilà. Donc, ça, c'est, je dirais, un point important dont je voulais parler. Ensuite, bon, ben... je vous ai déversé pas mal d'informations. Quelques conseils pour commencer. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre un tuteur. C'est-à-dire que vous allez faire vos premiers leads d'escouade si vous vous sentez pas vraiment à l'aise. Vous vous mettez en chef d'escouade et vous vous mettez la parole prio, et vous prenez un vétéran qui va vous aider. Il lui aussi se met en parole prio. Donc comme vous êtes tous les deux en parole prioritaire dans le canal, vous pouvez vous parler de façon privée en enfonçant la touche de votre propre canal. Donc vous êtes en alpha, vous allez appuyer sur la touche alpha 1, il n'y a que l'autre qui est en parole prio qui va vous entendre. Donc comme ça, ça va vous permettre d'avoir des petites conversations privées. Votre tuteur va pouvoir vous conseiller et vous dire bon là tu vois, essaie d'aller par là, fais gaffe, il y a un tel qui fait n'importe quoi, rappelle-le à l'ordre, des petites choses comme ça. C'est un bon moyen de se mettre le pied à l'étrier et de vérifier qu'on a trouvé le bon tempo et qu'on s'en sort bien. Donc ça, le coup du tuteur, c'est pas mal. Bon, ensuite, avec la pratique, ça rentre, et puis avec l'expérience de jeu aussi, vous allez rapidement voir comment faire des coups classiques, du genre comment est-ce qu'on défend une carte SIM, comment est-ce qu'on attaque un biolab, par où on peut passer dans un tech plan, et des schémas assez classiques que vous allez être amené naturellement à reproduire parce que vous les aurez pratiqués en tant que grunt. Et là, et c'est aussi important que vous les propagiez. Vous êtes au premier étage d'une carte SIM. Bon, y a deux escaliers à protéger, il y a une terrasse, l'escalier qui mène au toit. Tous ces points-là sont des points dangereux. Donc vérifiez que vos gars sont bien répartis partout, là où il faut. S'ils sont pas super à l'aise, rassemblez tout le monde autour du point. Il y a des trucs comme ça. Vous avez une petite, par exemple, vous avez sur Ossigne, il y en a pas mal. Tiens, un point de capture qui est dans une toute petite, tout petit bâtiment au milieu de nulle part. Alors ça, c'est le piège à con, ce truc, parce que toutes les squads se mettent dedans, et alors il n'y a plus qu'à grenader à l'intérieur et tout le monde meurt. Vous mettez juste un lourd et un médic dedans, et puis le reste de l'escouade, vous le répartissez autour en embuscade. Parfois, la meilleure défense d'une base, c'est de ne pas être dans la base, c'est être à l'extérieur de la base. Donc bon, tous ces machins-là, c'est des trucs que vous allez apprendre en tant que grunt, et vous allez trouver votre propre style de jeu, votre propre style de commandement. Si vous jouez sous les ordres de Goyim, vous avez pu voir que c'est pas la même chose que de jouer sous les ordres de Mojok, hein, ou sous les ordres de Nico, ou de Banania, etc. Donc vous-même, vous allez trouver votre propre style, et ça sera, ça passera aussi bien que n'importe qui d'autre. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà, voilà, bah, je crois que j'ai à peu près fait le tour de mon petit baratin. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé.
Non, c'est bien, c'était sympa.
Je vais vous... Maintenant, on va passer aux questions. Si vous avez des... vous avez... Écoutez, vous avez été très sage. Hein.
On a écouté sagement, mais c'était... Non, c'était bien. Il y avait des choses intéressantes. Non, c'était bien.
Il y a des petites questions, des machins...
Ouais, forcément.
Qui... Alors, vas-y, envoyez.
Ouais, je vais essayer plutôt de parler de mon expérience personnelle. Le truc qui me fait brère, j'ai essayé 2-3 fois de leader quelques squads à l'occasion, mais je me sens particulièrement mauvais dans les choix tactiques. C'est-à-dire que je m'aperçois qu'en fait, je passe ma soirée souvent en tant que médic. Hein. C'est peut-être le choix que j'ai fait qui est un peu merdique. Mais c'est vrai qu'en tant que médic, je m'occupe plus de ma team que d'essayer de savoir où est-ce qu'on va, où est, par où on passe, etc. Et quand je me retrouve squad leader, tu te dis, mais attends, c'est quoi cette base? Qu'est-ce que je vais y foutre? Ah tiens, elle est fichue comme ça. Donc bon, t'es un peu dans l'impro. C'est peut-être le truc qui me dérange le plus aujourd'hui dans l'idée, c'est de me retrouver face à des bases dont je vais pas savoir du tout comment elles sont foutues et comment est-ce qu'il faut les adresser.
Alors je comprends exactement ce que tu dis, parce que c'était mon principal problème moi aussi quand j'ai commencé chef des squads. C'était, comme on dit en anglais, la decision paralysis, paralysie décisionnelle. C'est-à-dire que tu passes dans la map, tu vois que ça clignote partout, et tu dis, putain, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Où je vais les emmener, mes gars? Et c'est vrai que c'est intimidant. Alors, et c'est le problème que j'ai un petit peu en ce moment sur Ossin. Parce que sur Ossin, je connais pas du tout les bases. Moi, la solution que j'ai trouvée, c'est d'y aller de façon assez décomplexée. C'est-à-dire déjà de prévenir les gars en disant, bon, je vous préviens, je connais pas la base. Donc, s'il y a un gars qui la connaît, ben... je me renseigne, je lui demande, tu sais où est le point, par où on passe, bah vas-y, passe devant, on te suit, pour la première action, et arriver à voir un petit peu comment la base est fichue. Donc ça, faut pas hésiter. Hein. L'autre conseil que je peux te donner, c'est de regarder, de passer un petit peu de temps à regarder la map. Même en début de soirée, hein, tu dis au gars, bon, hein, vous me laissez une minute histoire qu'on regarde un petit peu la map. Là par exemple, si tu ouvres la map sur Indar, imagine t'as une seule escouade, qu'est-ce que tu ferais?
C'est une bonne question. Bah écoute, je vais te dire ça en temps réel. Qu'est-ce qu'on voit? Alors déjà, il faut que je fasse gaffe au nombre de populations.
Ouais, c'est la première info qu'il faut que tu regardes. Voilà, ouais. C'est les ennemis détectés, alliés détectés sur les différents points qui sont contestés.
Donc au sud, en partant du sud, Scaren Mesa, j'ai l'impression qu'on est en train de leur rouler dessus. Je vois pas très bien l'intérêt d'aller jouer. Ah, quoi qu'en face, il y a énormément de monde. Donc pareil, c'est l'inverse. Voilà. En fait, j'irai pas du côté de Redbridge. Je pense que j'irai certainement pas là.
Alors ce que tu peux faire quand même, si tu dis... Ouais, mais il y a le Zergensei qui pousse et le prendre le Techplan, c'est intéressant tactiquement. Si tu dis je vais me faire rouler dessus si j'attaque Red Ridge, ce que tu peux faire, c'est prendre une position en hauteur et te dire bon, ok, je vais me faire escouade d'interdiction aérienne par exemple. Et tu fais en sorte que le ciel soit nettoyé de manière à ce que le Zergensei puisse avancer.
Ou mais alors, typiquement là-dessus, tu te mettrais en def ou en attaque?
Ben, là, tu vois. Tout à l'heure, alors j'ai regardé tout à l'heure ce qui est de Messin, on était en défense. On a réussi à manifestement à rétablir un petit peu la situation, mais pour autant c'est pas la joie. Donc là j'irai quand même y faire un petit tour en me mettant sur une hauteur, par exemple, tu vois là où je viens de mettre mon point vert,
ouais.
Et en gardant le Gal en retrait. De façon à voir si je peux faire la différence. Peut-être que le problème qu'ont les NC sur place, c'est qu'il y a beaucoup de chars en face, tu vois. Donc ils n'arrivent pas à progresser. Donc je me mets en hauteur et je bousille les chars au lance-missile. Et puis si ça passe pas, bah, tout le monde remonte dans le Gal et on va ailleurs.
Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, il y a une technique qu'on utilisait énormément sur Planetside 1 et que je retrouve pas du tout dans Planetside 2. Enfin, en tout cas, à l'époque où je faisais du squad leader sur PS1, on déployait énormément d'AMS en les protégeant. Et en fait, on essayait de guider un peu le Zerg. Chose qu'on fait pas du tout chez nous. C'est-à-dire, moi, je me souviens, l'objectif, c'était d'essayer de filer les portes d'entrée dans vos Zerg pour qu'ils puissent accéder aux bases plus facilement. Enfin, je sais pas si tu te souviens un peu de l'histoire.
Tout à fait, ouais. Je me souviens très bien.
Et ça, c'est pas du tout le style de jeu dans lequel on se met. Est-ce que ça a aucun sens maintenant, ou peut-être que ça va revenir?
Alors, je pense
parce
que ça,
les serveurs deviennent bien pleins.
Ça a moins de sens qu'avant, dans la mesure où le jeu est plus rapide. Sur PS1, on était sur des temps de prise de base qui étaient de 15 minutes. Et donc c'était vraiment tu plaçais tes AMS comme les pièces sur un jeu d'échecs, tu vois.
Exactement.
Et t'avais des points d'entrée qui étaient genre la backdoor par exemple.
Oui. Je vois que tu te souviens bien.
Ah bah, tu sais, j'ai pratiqué pendant des années et des années. Hein.
Ouais, non, mais je me souviens.
Et
de ça.
Les AMS en plus étaient sous une bulle d'invisibilité. Tu les protégeais à mort avec des tourelles, des mines, des machins, qui tous les accessoires qu'on n'a pas dans PS2. Donc ouais. C'était hyper important. Là, le PS2 est beaucoup plus dynamique, donc l'AMS, tu le ramènes, c'est autant un véhicule de transport qu'un véhicule de déploiement, et tu essaies d'avoir un jeu plus dynamique. Donc bon, c'est un élément de réponse, mais sinon, oui, c'est vrai que... Je pense que j'ai l'impression que c'est que les disperseurs survivent moins longtemps que les AMS dans PS1.
Ouais, je pense probablement. Ouais. Quand je vois à quelle vitesse Mojo qui arrive à les contourner, à les nettoyer, je me dis que en fait l'aspect tactique est probablement, si j'ai compris un peu le PS2, le plus souvent d'aller essayer de détruire des disperseurs ennemis pour bloquer leur point de respawn. Plus que pour essayer de créer des points de respawn pour nous, quoi. Enfin, si je me réfère au style de Mojok.
Oh, mais c'est clair que si tu te retrouves attaqué, le premier truc à faire, c'est nettoyer tous les disperseurs qui sont en train de se positionner tout autour. Ça va assécher la menace ennemie de façon mécanique, quoi.
Salut les gars.
Hello. Je sais pas qui vient de dire bonjour.
Sonno.
Donc, autre point où tu pourrais attaquer sur la map si on regarde actuellement.
Alors, bah, y a un point où j'aimerais bien probablement aller essayer de mettre mon nez, mais c'est un choix tactique qui vaut ce qu'il vaut. J'irais sur Indarcom pour essayer de récupérer les deux points qu'on a perdus, qui sont Island et Alatum. Biolab, c'est blindé de chez blindé, on n'a rien à y foutre. Puis c'est compliqué de récupérer un Biolab, j'ai pas le niveau. Indar, sera peut-être un peu du Ghost Cap, mais bon, un 12-12, pourquoi pas, quoi. En tout cas, c'est par là que j'irai, histoire de me faire la main, de voir un peu comment l'équipe tourne, et puis, commencer par des petites victoires, quoi.
Alors, effectivement, l'idée, on commence modeste pour mettre les squads en confiance et huiler le rouage. Je suis entièrement d'accord. Faut commencer par faire ça.
Ouais, sauf que là, tu vois, Indarcom, je regarde de près, je me dis bon, ok, c'est où que ça se passe.
Alors attends que je regarde ça. Indarcom. Donc on est 67% en ayant 1 à 12, tu vois. Donc. Grosso modo, tu sais, c'est une base qui est en hauteur, au sommet d'une machin. Tu te dis, ouais, effectivement, on peut. Ça doit être assez tranquille. Ça clignote beaucoup juste en dessous. C'est-à-dire qu'il y a une grosse bataille sur West Island Checkpoint. Oui. Du coup, ça peut être un point marrant à faire, une Darkcom, pour aider les copains parce qu'on a été coupés.
Ouais.
Et donc ouais, ça c'est une idée qui me plaît bien, tu vois, ça vaut le coup de tenter.
Ils sont passés à 12-24 en face, je pense qu'on y serait parti là, on serait dans le gal en train de dropper, et on tomberait sur une à deux squads ennemis.
Ouais, mais même, alors des fois tu vas faire des actions que tu sais vouées à l'échec, et faut pas, mais c'est pas grave, hein. Faut pas hésiter à le dire à tes gars, et dire bon ok on va là, on va probablement déclencher une réaction de l'ennemi, ce qui fait qu'on va se retrouver avec deux ou trois escouades sur la gueule dans les 3 minutes qui suivent.
Mais tant mieux, vous inquiétez elles pas, moins là. Elles
c'est normal. Voilà, elles sont pas juste à côté là où il y a les copains. Ça va les soulager. Et notre sacrifice ne sera pas vain parce que du coup, les gars ils vont pouvoir terminer leur action. Et une fois qu'ils ont fini leur action, ils viendront à la rescousse. Donc, ce que tu fais à ce moment-là, c'est que tu dis à un de tes gars d'aller chercher un disperseur, par exemple sur Quartz Ridge Camp, tu vois.
Ouais, ça c'est une bonne idée.
Pour le ramener dans la Pampa, un endroit à mi-chemin, là par exemple, ou alors un petit peu plus du côté où sont les copains, de façon à ce que quand tu te seras fait bousiller la gueule au bout des 5 minutes sur une Dark Omeray, tu auras déjà prévu le coup suivant, en disant bon bah ok, maintenant vous vous redéployez sur le disperseur qui était préparé à l'avance, de manière à re-rentrer un petit peu dans le giron du Zerg, et à faire la contre-attaque qui va bien. Tu vois. Comme ça, les gars, ils disent, ok, bon, on est pris plein la gueule, mais en fait, il y a un plan derrière, il y a un machin, c'est notre chef d'escouade, il est super fort, il a déjà tout prévu, et ça va rouler.
Donc, Et tiens, dans les trucs totalement stupides, je ne sais même pas aujourd'hui comment est-ce que je fais pour savoir qu'est-ce qu'on peut déployer, où et quoi. Enfin, je sais que pour l'aérien, ça va à peu près. Mais typiquement, on peut déployer des véhicules dans n'importe quel point ou...
Alors, tu peux déployer les véhicules de base, on a à peu près toutes les bases, ouais.
Y compris le dispé.
Ouais, y compris le dispé. Ce que tu ne peux pas forcément déployer, c'est les véhicules avancés. Donc,
les chars à deux places, un truc comme ça.
Voilà. Galaxy, tu peux déployer que dans les tech plans et la Warp Gate. D'une manière générale, je ne conseille pas, sauf exception, de sortir les galaxies dans les tech plans, sauf si vraiment tu es sûr que tout autour la zone est safe. Chaque fois qu'on a essayé de sortir des galaxies d'un tech plan,
ça se finit mal.
Ça se finit. Bon, surtout du temps où on était obligé de prendre pied dans le galaxy. On était obligé de poser le galaxy et de prendre pied dedans. Là, on peut redéployer direct dedans, donc à la limite, le galaxy part comme un voleur et puis tout le monde redéploie dedans en plein vol.
Oui.
Mais bon, avant c'était pas le cas. Là, c'était carrément plus délicat.
Bon ben voilà, tu vois à peu près questions. Ouais, vas-y.
Ouais, bah non, c'est. Mais ouais, il y a. Encore une fois, on n'est pas forcément obligé de faire des assauts de base. Je veux dire d'attaquer des bases, de prendre des points. Tu peux tout à fait placer tes gars dans la pampa, sur une hauteur pour faire un point de défense antiaérienne, le long d'une route où c'est qu'il y a les ergémies pour faire une embuscade, un point d'attaque de Zerg, par exemple, il y a un point que j'aime bien là sur Broken Arch, voilà, là où j'ai passé mon point vert.
Ouais.
Ici, il y a une petite gorge. Tu places un disperseur juste derrière et t'en passes un autre de secours un peu plus à l'est, hein, en les arrivés par Gravel Pass. Et à partir de là, tu vas shooter tous les tanks qui vont arriver de Crossroad Watchtower. Et ils vont avoir un mal fou à passer. Et pour peu que tu arrives à placer une deuxième escouade un poil plus haut ici sur le bloc rocheux qui est au-dessus de manière à assurer la défense antiaérienne, voilà, t'es le roi du pétrole, quoi. Il n'y a plus rien qui passe. Bon, bah tu vois, là, tu vas pas prendre de base. N'empêche que tu vas sérieusement compromettre l'avancée ennemie et tes gars vont vraiment
on
prendre
la
gueule parce que ils vont se gaver, quoi. Et puis c'est drôle. Alors. Là, tu vois, c'est l'occasion de pratiquer des trucs du genre désignation commune de cible. Donc les gars, tu les disciplines un peu, tu leur dis, ok, il y a un tel qui fait la désignation de cible. Donc le mec, il dit, ok, c'est machin qu'on vise, tout le monde le lock, tout le monde tire en même temps, et le mec, le tank en face, il explose une gerbe de flamme en un seul coup, c'est carrément jouissif. Voilà le genre d'action que tu peux faire.
Non, mais j'ai vu des séquences d'action avec Mojok tout à fait intéressantes. Hein. Il a un style de jeu très infanterie qui est assez impressionnant.
Ouais.
Enfin, moi j'apprécie.
Bah, c'est la base du jeu LSD, c'est ça. Mais ceci dit, tu peux faire des trucs mix. Moi par exemple, ça m'est déjà arrivé de faire de l'infanterie avec un petit char d'appui avec nous, tu vois. Par exemple, tu vas prendre un disperseur, tu vas prendre un char anti-aérien et tu vas faire aller tes grunts à pied devant. Et ces deux-là, et les deux véhicules, ils restent derrière en appui. Tu peux faire des choses comme ça. Tu peux d'un seul coup sortir. Si tes gars sont réactifs, chose que j'avais pas réussi à faire, par exemple, la dernière fois, là où j'ai écrit mon compte rendu là sur une attaque sur Austin, j'ai dit à mes gars. La situation était vraiment tendue. Ok, on sort tous les chars, on va flinguer ce disperseur. Malheureusement, mes gars n'ont pas réussi à réagir suffisamment vite, donc le truc a échoué. Mais s'ils avaient réagi rapidement, on tombait à 7 ou 8 chars foudres sur les BRTD, et là, d'un seul coup, les mecs, ils allaient moins faire les malins. Ça peut être des trucs rigolos à faire. Goyim va, par exemple, quand il y en a marre, Goyim va sortir une escouade aérienne air-sol, et pilonner les gars qu'on a pas réussi à traiter.
Mais c'est très agréable. Enfin, moi, je trouve qu'une escouade aérienne, c'est vraiment très efficace. Hein. Enfin, voilà. Celle que Goyim arrive à monter, je trouve qu'un Gal Gunship entouré de quelques Ravas et voire même un ou deux Libés.
Ça peut pique, le faire. Hein. L'autre truc qui est pas mal, c'est que ça peut aussi introduire un petit break. Au milieu de soirée, pour que les gens se détendent un peu, voient un peu autre chose, pour faire varier les plaisirs, et qu'ils voient qu'on fait pas que de l'infanterie chez LLSD. Donc c'est. Moi malheureusement, l'aérien, j'arrive pas du tout à piloter, mais c'est bien aussi de savoir varier les plaisirs, de sentir quand les gars de son escouade faiblissent un petit peu, ou se lassent.
Ou qu'on a juste pas de bol parce qu'on se fait rouler
dessus. Juste pas de bol, voilà. Enfin, et donc là, on essaie de faire un petit peu autre chose. Quoi.
J'avais une remarque sur la composition des escouades. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre à la fin de l'escouade un lourd pour protéger les medics qui se entre guillemets sacrifieraient pour les medics?
Tu veux dire quelqu'un qui couvre les medics l'arrière-garde?
Ouais, c'est ça, c'est un peu ça.
C'est une bonne idée. Tu peux faire ça si tu sens que tes medics ont besoin de couverture. À ce moment-là, ce que je te conseillerais de faire, c'est de mettre un gars qui est plutôt un peu vétéran et qui va comprendre ce qui se passe. Et qui va avoir un. Parce que le gars, il va suivre les squads quasiment en reculant en fait.
Oui, c'est un peu ça, il va juste couvrir les raids et puis peut-être se faire pilonner en même temps que les medics.
Mais les medics, faut vraiment qu'ils restent en restant planqués dans leur coin, dans les petits recoins. S'il y a des. Ils peuvent pas atteindre les gens parce que la personne est au milieu et inaccessible parce qu'elle est sous le feu ennemi, faut pas qu'ils se précipitent, faut qu'ils balancent une grenade de raids et puis voilà.
Ou qu'ils demandent une couverture. Ce que j'essaye de faire de plus en plus souvent quand même, parce que quand tu sens que ça va être chaud, t'as quand même le droit de demander à ce que ta team te surveille.
Bah, en tant que chef d'escouade, tu peux très bien donner un ordre de tir de couverture, par exemple, tu fais du tir de suppression sur une position ennemie pour couvrir l'action d'un médic ou d'un ingé. Par exemple, s'il y a besoin de relever un max. Le max est beaucoup plus loin à relever et puis c'est une pièce essentielle de ton jeu en tant que chef d'escouade. Le max il est à terre, faut absolument que le médic arrive à le relever et donc faut que les autres ils fassent le coup de feu tout autour pour protéger le médic.
Mais t'as déjà fait des tirs de suppression toi ?
Ça demande vraiment d'avoir une escouade qui sache bien, qui roule bien, qui comprenne vraiment les tenants et les aboutissants de ce que ça veut dire. Quoi.
Parce que moi, je me souviens de tirs de suppression à grand coup de lâcheur, où effectivement c'était très efficace, mais ça date d'il y a 10 ans. Quoi.
Et c'était avec le lâcheur, qui est une arme qui avait du splash damage.
C'était énorme. J'ai couvert des bacs d'or
à deux lâcheurs, tu tenais un couloir dans PS1. Ouais,
c'était
cheaté. Moi, c'est pour ça que j'ai ramassé tous les lâcheurs que je pouvais trouver sur mes ennemis, parce que dans PS1, messieurs, figurez-vous qu'on récupère les armes de ses ennemis en pillant leurs cadavres, ce qui est quand même assez excellent.
Ouais. Et le top, c'était de tuer des putains de terre avec leurs...
Moi, je tuais les vanus, et je ramassais les lâcheurs, et je les retournais contre eux, et les mecs, d'un seul coup, ils s'éparpillaient tous en, comme des poulets à qui on aurait coupé la tête, parce que merde, qu'est-ce qui se passe, je comprends plus rien, je me fais tuer par une arme cheatée. Bah oui, c'est celle que tu nous as
les NC, le nombre de fois où on vous a maudit avec vos jackhammer, parce que passer 50 mètres, nous on était plus bon à rien, quoi.
Il fallait arriver à la portée de tir.
Mais alors par contre, à portée de tir, c'était terminé, il n'y avait plus personne.
Eh oui, c'était le bon temps.
Donc quand je ramassais des jackhammer, moi aussi je m'amusais bien.
Oui, mais c'était mieux équilibré que dans PS2, enfin je trouve.
Mais t'as joué à quelle époque alors, toi ?
Bah, j'ai joué... Attends, le PS1 est sorti... en quelle année ? J'ai dû vraiment commencer à jouer à peu près 3 ans après la sortie de PS1, quoi.
Ah non, j'avais déjà arrêté, alors.
Et c'est, en fait, c'est mon fils qui m'avait branché sur les LSD, et qui lui-même avait été formé par... comment il s'appelait ? Lapineau. Qui a été ensuite mon bourreau pendant des années.
Ah, ça me dit quelque chose, ça. Enfin, moi, j'ai surtout connu No One.
Ouais. Bah, No One était parti quand moi j'étais.
Mais le... Enfin, moi, je me souviens à l'époque, c'était. Enfin, bon, je suis désolé, je diverge du sujet initial, mais on se faisait des events entre nous. Parce que nous, on était Vanu. Et bah, vous étiez NC, évidemment. Et comme on avait dit à peu près le même style de jeu, lorsqu'on créait des persos sur d'autres classes, enfin d'autres empires, eh ben, on avait d'un commun accord considéré que ceux qui jouaient Vanu venaient chez nous, et puis que nous on allait jouer chez les LSD quand on prenait NC.
Ouais, c'est un peu ce qu'on a fait des années par la suite avec les Frenchies. En fait, on n'était plus assez nombreux chez les LSD, on s'était mis avec les Frenchies, donc on faisait une semaine NC, une semaine Terre.
Ah d'accord, vous avez joué TR, c'est la seule classe que j'ai jamais joué.
Voilà, bon écoutez, en tout cas merci beaucoup,
merci.
Je vais conclure en disant que grosso modo le but de tout ça, hein, ce qu'on essaye de faire en ce moment, parce que les officiers, parce que moi je suis pas officier de la section, hein, je suis juste le papier de service, ce que les officiers essayent de faire, c'est de remotiver, refaire revenir tout le monde. Donc n'hésitez pas à recruter vos potes pour les faire venir chez LSD, leur expliquer comment c'est bien chez nous. On aimerait vraiment arriver à remplir des sections entières. Alors peut-être qu'un jour on arrivera à faire ce qu'on faisait à 2 ans, c'était de jouer à 8 escouades, donc 2 sections. Donc je sais pas si vous imaginez, il y avait une centaine de joueurs qui attaquaient au même endroit. On a l'organisation pour ça. On a toute notre organisation de communication. Il y a des vétérans qui savent faire dans l'équipe. On peut faire ce genre de soirée où on était, pour vous donner une idée de comment ça se passait, dans le canal chef de section. Donc il y avait le chef de section, il avait une ou deux recos, et il avait un officier de liaison. Son rôle, c'était de communiquer avec les autres guildes. En allant sur le NCTO, donc il y avait de la communication avec des anglophones. Les recos, c'était les yeux du chef de section qui mettait en place la partie reconnaissance et suggestion de stratégique pour le chef de section. Donc on réfléchissait un ou deux coups à l'avance. Et pendant ce temps, on avait 4 escouades d'infanterie qui faisaient le gros de l'action. On avait une escouade RR qui est en support domination aérienne. On avait une support air-sol qui faisait l'appui feu. Et on avait une escouade de tanks qui suivait le mouvement principal. Et une escouade d'infanterie support tank qui était là pour aider et réparer les tanks, leur amener tout ce qu'il fallait et les protéger.
Non, c'est un sacré rêve, ça. Hein.
Je peux vous dire que quand l'ennemi nous voyait débarquer, ils faisaient dans leur froc. C'était nous le Zerg, en fait. Et on a fait des soirées, vraiment, je vous dis, sans joueurs, quoi. Et l'organisation qu'on avait mise au point fonctionnait. Avec un sous-chef de section pour les 4 autres escouades supplémentaires. Donc c'est pour ça que vous avez dans les tutos TeamSpeak, là, les plans de clavier où il y a Alpha 2, Bravo 2, Charlie 2, Delta 2, chef de section 2, tout ça, ça vient de là. Donc, j'espère qu'un jour on y arrivera, et ça tient surtout à vous, si vous arrivez à rameuter du monde. On a les moyens de jouer comme ça si on a les gens.
Donc, et la démarche consistant à fusionner des outfits, ça existe ou...
Pour l'instant, c'est pas tellement l'heure du jour. On a des gens d'autres outfits qui viennent. On n'a pas une politique prédateur, si tu veux. On a quand même un style de jeu assez particulier. Et la dernière chose qu'on veut, c'est qu'il y ait des groupes dans le groupe. Donc on veut pas qu'il y ait des gens qui viennent et qui soient tagués, ok, ça c'est les... Je sais pas moi, c'est les machins bidules ou c'est l'équipe machin bidule. On préfère absorber des individus plutôt que des équipes déjà constituées.
C'est plus facile, c'est vrai.
C'est plus facile, ça permet de mieux les former à notre style de jeu. Et encore une fois, on veut éviter les groupes dans le groupe. C'est pour ça, par exemple, qu'on ne fait pas des squads spécialisés. Parce que on a vu par le passé, faire ce genre de choses, tu vas créer des espèces de sous-sections, de sous-groupes qui vont ensuite considérer que c'est eux les experts, que c'est eux les ninjas, que c'est eux les machins bidules, et à la fin, ça mène à des scissions.
T'es en train de me raconter une histoire, là.
Oui.
Ouais, d'accord.
donc voilà. Maintenant, il faut plus en parler avec les officiers, parce que moi, je gère pas la section. Mais il faut absolument qu'on continue à recruter des gens. En ce moment, on recrute pas mal. On a beaucoup de gens qui viennent, mais qui restent pas forcément très longtemps. Donc, faut qu'ils prennent l'habitude de venir régulièrement. Faut qu'on les forme, parce qu'on a vraiment besoin de faire monter les gens en niveau, et on a besoin de constituer les cadres. Donc, c'est pour ça qu'avoir des chefs d'escouade qui vont mener la bonne parole et puis mener les gens au feu et voir comment c'est bien d'être chef d'escouade et qui ensuite verront comment c'est bien d'être chef de section, c'est important. Voilà, et c'est ma conclusion et c'est pour ça que je vous remercie de m'avoir écouté.
Écoute, merci de nous en avoir parlé aussi longuement. C'était sympa.